politique.
De faire la distribution et la vente au détail du cannabis, mais dans une perspective de protection de la santé. Alors, c'est là où ça s'incarne le rôle social. C'est pas une société commerciale.
On sait que si on traite au moins comme l'alcool, on réglemente, on contrôle ce qui est dedans et on s'assure qu'au point de vente, il y a une vérification des cartes d'identité. On peut rendre ça plus difficile pour nos jeunes d'y accéder. C'est un début.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Oui, bien, Paul Journet est éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut.
Carl Bélanger, consultant en communication stratège politique. Bonjour, Carl.
Bonjour.
On va commencer avec toi, Carl. Donc, on vient d'entendre Justin Trudeau qui dit plus de contrôle va diminuer la consommation par les jeunes. Ça, je suis sceptique. Et juste avant, Alain Brunet qui disait « La Société québécoise du cannabis n'est pas une société commerciale. » J'ai failli pouffer de rire. Ça, je vais te demander, Paul, de réagir à ça dans un instant. Mais Carl, vas-y avec Ottawa, parce que ça vient d'Ottawa.
Ben, ça vient d'Ottawa, puis ça va plutôt bien pour Justin Trudeau, parce que dans le fond, demain, son problème est plutôt terminé. Là. Ça va dans les cours des provinces. Alors, il se l'enlève les mains. Les Canadiens sont plutôt heureux de la situation. 70 % des gens sont d'accord avec la légalisation, à tout le moins prêts à l'accepter.
Mais au Québec, c'est plus bas, pas mal.
Au Québec, c'est un peu plus bas, mais grosso modo, il y a quand même une majorité de Québécois qui sont en faveur ou qui acceptent le fait que ça arrive. Donc, Trudeau, plutôt confiant, pour lui, c'est une promesse de rempli. On peut cocher la boîte là sur la liste et puis on peut passer à autre chose.
Penses-tu vraiment qu'il peut faire campagne dans un an là-dessus en disant « j'ai tenu mon engagement de légaliser » Penses-tu que politiquement, c'est rentable pour lui?
Ben, ça va dépendre comment les choses vont évoluer. Mais présentement, son objectif, c'est de conserver le vote des milléniaux, qui devient la démographie la plus importante lors des élections.
Ouais.
Et ces gens-là étaient fort favorables
les
à
autres,
cette politique-là.
C'est les 18-34 ans à peu
ouais,
près.
Oui, grosso
ouais.
modo, c'est
ouais.
ça. Ouais. Donc, il va espérer que ça va bien se dérouler, mais le public cible là-dessus, là, ça va bien. C'est du côté des provinces que ça va moins bien. D'ailleurs, notre ami Doug Ford, premier ministre de l'Ontario...
Qu'est-ce qu'il a fait encore,
Doug Ford? Il a écrit une lettre à Justin Trudeau pour se plaindre.
Il est capable d'écrire.
Il est capable d'écrire. Et puis, il a écrit une lettre où il fait trois points qui avait dit que pendant sa campagne, lui, il y avait trois points non négociables, c'est-à-dire protéger la jeunesse. On vient d'entendre Justin Trudeau qui a dit c'est aussi notre objectif. Et je suis d'accord avec toi que c'est pas clair que c'est ça qui va arriver, mais quand même, l'objectif est là.
Protéger la jeunesse.
S'attaquer au marché noir. Encore une fois, mais les jeunes qui n'ont pas accès parce qu'ils sont en dessous de l'âge limite, le marché noir va toujours probablement exister pour eux.
Et on voit que le marché noir est en train d'ajuster ses prix.
Sont en baisse.
Voilà.
Ils sont en baisse. Et finalement, le troisième point de Doug Ford, et c'est là où il durcit le ton un peu, c'est à s'assurer que les routes sont sécuritaires. Et là, il s'en prend notamment aux moyens qui sont donnés aux policiers. Il dit, ça ne fonctionne pas, les routes ne seront pas sécuritaires.
Mais ils n'ont même pas les machines.
Et voilà.
Ils n'ont pas les machines.
Vous mettez la vie des Ontariens en danger, M. Trudeau. Et là, ce que Doug Ford essaie de faire, c'est évidemment de souligner que s'il y a des problèmes, s'il y a des accidents, s'il y a les taux d'accidents causés par la consommation augmentent, ben c'est la faute de Justin Trudeau.
Là, est-ce qu'il fait le travail pour Andrew Scheer en fonction de la prochaine élection fédérale dans un an, tu penses?
La famille conservatrice entre Ottawa et Queen's Park, là, c'est très uni.
C'est serré.
Tu
nous as dit hier, beaucoup d'anciens conseillers de Harper sont dans l'entourage
Jenny
de Doug Ford.
Qui est la directrice de cabinet de Harper, d'autres conseillers autour de ça, même des élus qui sont d'anciens députés fédéraux qui sont maintenant là. L'ennemi à abattre, ça demeure Justin Trudeau. Alors, on va voir souvent des attaques qui vont venir, notamment de l'Ontario, mais aussi de Jason Kenney en Alberta lorsqu'il va battre Rachel Notley au printemps parce que ça oriente pour ça.
Ça a l'air de ça.
Alors, ça va faire une attaque comme ça des conservateurs pour favoriser Scheer.
Très bien. Paul, qui a toujours une réaction intelligente à nous donner.
Il y en aura deux cette fois-ci.
Oh là là, oh là là.
La première sur les moyens donnés aux policiers. Tu dis, ils n'ont pas les machines pour le détecter. Bien, c'est parce que la science n'est pas rendue là. Le cannabis, c'est une substance qui affecte le corps pas de la même façon que l'alcool.
Mais ça, Paul, ils ne nous l'ont pas dit quand ils ont voté le projet de loi. Ils ont installé...
Bien, c'est connu depuis longtemps que la science n'est pas rendue là parce qu'il n'existe pas de test de dépistage. Là, tu peux essayer d'y aller par le sang, par l'urine, mais il n'y a pas de façon qui résisterait, je pense, à une contestation en cours.
Mais Paul, j'avais un policier assis dans ta chaise hier, OK? Puis il m'a rappelé après là, pour me dire, garde là, oui, la loi prévoit une certaine quantité de THC, mais on n'est pas capable de la mesurer parce qu'on n'a pas les machines.
Ouais.
Fait que ça sert à quoi d'inscrire des limites dans le code criminel ou dans la loi si tu n'es pas capable de les faire respecter?
On fait adopter une politique,
ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais le problème... qui va y avoir après la légalisation, c'est un problème qu'il y avait avant Les gens fumaient aussi.
Mais alors, pourquoi, est-ce qu'on a, pourquoi ça pressait tant de légaliser? On aurait pu attendre.
Pour d'autres raisons. À ma connaissance, je ne pense pas qu'on a légalisé pour sécuriser les routes.
Ah non?
J'ai jamais entendu cet argument-là.
Ah non?
Non.
Donc, on l'a légalisé pour les rendre plus insécures?
Non, ni l'un ni l'autre. On l'a légalisé pour toutes sortes, sérieux, de raisons Paul, de santé publique.
Sérieux, Paul, là, si les routes sont plus insécures après la légalisation, là, pour moi, là, ça, c'est un échec. C'était du monde qui sont handicapés ou qui sont tués parce qu'ils ont été frappés par quelqu'un qui était gelé comme une bine au volant. Puis qu'on, tu sais, tu vas me répondre, ah ben oui, mais attention, il y en a déjà qui se promènent gelés comme une bine au volant. Fait que tu peux pas faire un lien entre ça et la légalisation. Mais va dire une chose, si on apprend que la légalisation a mené certains vers une consommation ou une consommation plus importante, il va falloir se poser des maudites questions.
Oui, mais est-ce qu'on peut avoir un peu de rigueur, par exemple? Est-ce que...
T'es en train de dire que j'ai pas de rigueur, là.
Ben, je suis en train de dire que ton raisonnement est incomplet, Bernard. Si tu veux avoir une analyse complète, là, des risques de la légalisation, moi, j'aimerais ça aussi connaître les gens qui conduisaient après avoir consommé et qui, à la suite de la légalisation, à la suite des campagnes de prévention, ont décidé finalement de ne pas consommer. Ça, est-ce que ça va apparaître dans tes statistiques? Quand tu veux essayer de savoir, ça va être quoi le lien causal entre la légalisation et la sécurité sur les routes?
Mais je ne demande pas mieux d'y croire.
Il faut falloir faire attention si jamais on voit un cas d'accident de la route à la suite de la légalisation, de sauter aux conclusions puis de dire c'est à cause de la légalisation, le bilan au net a été une hausse de l'insécurité routière. C'est pas si simple. C'est tellement facile puis on le fait souvent dans les médias, monter un cas en épingle puis essayer de généraliser à partir de ça. C'était mon premier point, Bernard.
C'est pas moi qui l'ai légalisé, la maudite matière. Je veux dire, Trudeau, il inscrit dans sa loi des limites. Il n'est pas capable de les faire respecter. Ben moi, j'ai un problème avec ça. J'appelle ça, c'est comme une sorte de mensonge d'État, ça, non?
Mensonge d'État, j'irai pas jusque-là, mais moi, je partage ton inquiétude par rapport à la difficulté de détecter les consommateurs sur les routes parce que, d'un point de vue scientifique, c'est difficile de mesurer si une personne a les facultés affaiblies par le cannabis. Ça, c'était mon premier point.
Okay.
Il y en a un deuxième, Bernard.
Vas-y, mon Dieu.
Tantôt, t'as ri quand on disait la société du cannabis, là, elle n'a pas une vocation commerciale. Dans la loi de cette société d'État, on indique que s'il y a des profits, et il n'y aura pas des profits à court terme parce qu'il y a des coûts de lancement, mais si ou quand il va y avoir des profits, ils vont devoir être dépensés en santé publique. Et ça, ça n'existe pas dans les autres sociétés d'État et il existe déjà des pressions très fortes avec la Société des alcools du Québec et l'Auto-Québec pour qu'ils ramènent de l'argent dans les coffres de l'État parce que eux, ces sociétés d'État, contrairement à celles du cannabis, ça s'en va dans le fonds consolidé. Donc, ça sert les programmes sociaux. Donc, moi, je veux bien là, m'inquiéter, mais est-ce qu'on peut parler un peu de l'Auto-Québec à qui on met plein de pression pour qu'ils rapportent plus d'argent avec les loteries vidéo qu'on connaît? C'est des gens qui suicident.
Je
dans les quartiers défavorisés.
Mais je le déplore, ça. Je passe mon temps à faire des entrevues là-dessus.
Je suis pas en train de dire que c'est...
Je ne le prends pas personnel. C'est l'argument. Une société d'État qui vise à faire des pertes, là, je crois pas ça. Moi, je pense qu'à un moment donné...
C'est parce que moi, j'aimerais juste ça qu'on ait un certain sens de la mesure puis qu'on ne fasse pas comme si tout le problème était avec la nouvelle société d'État puis il n'y en avait pas ailleurs. Au contraire, peut-être qu'il y en a autant ailleurs puis qu'on s'intéresse aussi aux autres problèmes. La société de l'alcool, il y a aussi, en tout cas, on comprend c'est pas la même. Là. On a comme un deux poids, deux mesures qui m'indispose. Moi aussi, je dis qu'il ne faut pas banaliser la consommation de cannabis. C'est tout sauf une substance banale. Faisons une bonne campagne prévention et de santé publique, mais arrête.
C'est correct. Je veux dire, regarde, t'es ici justement pour, notamment pour faire la part des choses. Ouais. Alors moi,
la part des choses, ça serait un écœurant titre d'émission.
C'est un classique. Ouais. Alors toi, tu t'amènes l'autre partie de l'argument. C'est
moi,
très
j'amène
bien.
Le côté de l'argument qui est le côté rationnel.
C'est ça qu'on
rationnel. Rationnel.
Tu vois-tu mon doigt? Tu vois-tu mon doigt?
Oui, c'est un pouce en l'air.
J'en ai deux comme ça.
Deux pouces en l'air.
J'en ai deux comme ça. Vas-y, Carlo.
Écoute, la réalité, c'est qu'on peut essayer d'avoir un débat simple. On parle de politique, là. Et lorsqu'on parle de politique, les conservateurs, clairement vont tenter de faire porter le chapeau à Justin Trudeau si ça dérape, peu importe dans quel secteur. Et d'autre part, je peux vous dire cependant que les conservateurs, eux, ne feront pas campagne pour renverser la vapeur. Mmh. Le train est parti, le train est sorti de la gare, c'est vers là qu'on s'en va. Bon. On ne reviendra pas en arrière.
Bon, alors Paul, tu fais beaucoup réagir au 98985, c'est-à-dire notre texto.
Ne leur donne pas mon adresse personnelle, s'il te plaît, Bernard.
J'aimerais que M. Journet nous parle des anciens libéraux qui sont à la tête de ces compagnies qui vendent du cannabis, qui vont faire des millions, des milliards même.
Deux commentaires.
Attends un petit peu, j'ai pas fini parce que là, ça c'est le négatif. Tu veux entendre la suite?
Non, je veux entendre la suite.
Ils se fument déjà des tonnes de cannabis au Canada. Est-ce que c'est pas hypocrite de penser que la législation va empirer la sécurité routière quand on augmente la sensibilisation? Tu vois, il donne raison. Bravo, M. Journet. Tout à fait d'accord. Bravo. Enfin du rationnel. Es-tu content que j'ai continué?
Mais très rapidement, moi, c'est le premier qui m'intéresse. C'est ça. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Plusieurs des libéraux qui ont investi dans le cannabis ont investi avant l'élection de Justin Trudeau, quand personne pensait que Justin Trudeau allait investir. Et inversement, il y a plusieurs conservateurs qui ont investi là-dedans.
Julien Fentino, qui était ancien ancien ministre de la Sécurité publique et investi maintenant, un conservateur, ancien chef de police dans la région de Toronto.
Bien investi dans le
marijuana. Maintenant, il fait de l'argent comme de l'eau.
Ouais. Comme de la boucane. OK. On arrête. Paul, on arrête? Je sais que tu veux renchérir, mais là, n'abusons pas des bonnes choses.
Pas avant demain.
Tu vois, ça y monte à la tête, tous ces textos qui lui donnent raison. Là, il est au-dessus, il a la tête collée dans le plafond.
Il flotte.
On arrête, on continue après.
Drainville PM. Politique.
C'est extrêmement important parce qu'il nous démontre, nous comme gouvernement, mais devrait démontrer à l'ensemble des gouvernements de la planète, l'importance d'agir ensemble et de cesser de faire ce qu'on fait depuis 30 ans, qui est essayer de se trouver des excuses pour ne rien faire.
We need to act on climate change, and our focus should be, how do we do it?
This time, the scientists are telling us 1.5 degrees is far more dangerous than we thought it was.
Comment il se fait que l'on va attaquer tous les Canadiens, mais que les grands pollueurs, eux, seront moins attaqués? Est-ce que le gouvernement libéral fait deux poids, deux mesures?
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
De retour avec Paul et Carl. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un débat d'urgence aux communes sur les changements climatiques. Dans l'ordre, c'était Gérard Deltel. Juste avant, Élisabeth May, la chef des Verts. Juste avant, la ministre de l'Environnement, Mme McKenna. Et c'est Guy Caron, le chef parlementaire du NPD, qui a lancé le bal et qui disait essentiellement, Carl Bélanger, on peut-tu arrêter de se trouver des raisons pour ne rien faire?
Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'était un débat d'urgence. Et j'ai vu ça passer la semaine dernière. C'est un député libéral, un député de la région de Toronto, M. Erskine Smith, qui a fait cette demande-là au président suite au rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évaluation du climat des Nations Unies. Ce rapport-là, essentiellement, dit l'objectif actuel de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, on s'en va dans un mur. Mm. Même si on réduit ça à 1,5, il va y avoir des dommages significatifs. Mm. Il faut agir maintenant. Donc, M. Erskine Smith a fait une demande de débat d'urgence. C'est un député libéral qui demande un débat d'urgence par rapport aux politiques de son propre gouvernement. Donc, c'est assez rare. D'autre part, il est appuyé immédiatement par le Parti vert et le NPD. Et ça a été déposé hier en chambre au retour du Parlement. Et j'ai été surpris de voir le président de la Chambre acquiescer à la demande et permettre un débat d'urgence. Habituellement, un débat d'urgence, c'est il y a une crise, il y a une guerre, il y a quelque chose qui est arrivé qui est immédiat. Et là, le président prend ça en délibéré et accorde le débat d'urgence. Mais les changements climatiques, ça date pas d'hier. Là. L'accord de Paris, on peut remonter à Kyoto, on en parle.
Mais Carl, tout ça, tu as raison, là, mais je reviens sur ce que tu viens de dire. Le fait qu'il accorde le débat d'urgence alors qu'il y a, quoi, 2 ans, 1 an, il l'aurait pas accordé.
Exact.
Ça, c'est le reflet d'un changement de mentalité au sein quand même du Parlement du Canada.
C'est
là.
Très significatif.
Enfin.
Ben oui,
oui.
Enfin. Parce que on n'arrête pas de se mettre des cibles qu'on n'atteint pas. On n'arrête pas de signer des accords qu'on respecte pas. Et donc, on s'en va nulle part. Ben, en fait, on s'en va dans un mur. Parce que, bon, les gens, puis les gouvernements, il y a toujours quelqu'un qui veut, ah, ben, ça va coûter trop cher. Ah, ben, c'est aux autres de faire le travail. Si seulement les Chinois avaient nos normes environnementales.
Ben oui.
Tu comprends?
Ben oui.
Et là, ben, on a eu un débat d'urgence là-dessus. Et ce qui était intéressant...
Qu'est-ce que ça a donné, là?
Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. On a débattu de grands principes. Les libéraux blâment les conservateurs en les traitant de dinosaures environnementaux. Les conservateurs disent, ben, vous allez faire payer le monde de leur propre poche votre taxe sur le carbone. Tout le monde va payer. Ça n'a pas de bon sens. Et pendant ce temps-là, ben, la cible demeure la même. Elle et ne sera pas atteinte.
C'est essentiellement la cible que les conservateurs avaient, n'est-ce pas?
Absolument.
Trudeau a pas rendu la cible plus exigeante, là.
Non, il est allé à Paris avec les mêmes cibles que Stephen Harper avait. Et comme Stephen Harper, il ne les atteindra pas. Alors, ça donne quoi?
J'allais dire, de quoi on parle?
À Paris, ça fonctionnait parce qu'il venait tout juste d'être élu, donc personne ne s'attendait à ce qu'il modifie les cibles, mais là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est au pouvoir et il a les mêmes cibles que Stephen Harper. Puis comme Carl l'a dit, ben, on se demande bien comment il va réussir à les atteindre.
Là, ils sont supposés réviser les cibles en 2020. C'est la prochaine révision des cibles du gouvernement selon le plan qu'ils ont obtenu. On vise actuellement une réduction des gaz à effet de serre de 30 % sous le niveau de 2005 d'ici 2030. Mais c'est pas assez vite, selon le rapport du groupe d'experts de l'ONU. Et là, on parle augmentation du niveau des mers, les sécheresses, tous les phénomènes climatiques comme on a vu là, récemment, des tornades parce qu'il fait trop chaud au mois d'octobre en Outaouais. On va en avoir de plus en plus. Et c'est pour ça que, quand je me rappelle, pendant la campagne électorale au Québec, Paul avait parlé du programme de Québec solidaire qui était vu un peu comme radical.
Il était vu comme radical quand il a été déposé, puis trois jours après, il était vu comme finalement quelque chose de pas si radical parce qu'on s'est rendu compte que les constructeurs de voitures, certains d'entre eux, sont rendus là. C'est qui? C'est Volvo à partir de l'an prochain. Ils ne vont construire que des voitures électriques et hybrides. Mmh.
Puis le débat, je trouve, est tout croche parce que, encore une fois, on est très... là, je parle des conservateurs à Ottawa, tous ceux qui s'opposent là à des mesures musclées pour lutter contre les changements climatiques. On est très sensible à certains coûts. Par exemple, ce que ça va coûter si jamais on devait hausser les taxes sur l'essence. Mais on est aveugle par rapport...
C'est une vraie réalité, ça.
Oui, sauf que on est aveugle par rapport aux autres coûts. Tous les autres coûts, par exemple, les gens qui vont être inondés plus souvent. Puis on est incapable de faire l'analyse complète des coûts-bénéfices, de ce que ça va coûter... agir versus ne pas agir. Et c'est parce qu'on est très sensible à certains coûts, on les monte en épingle, puis on réussit à gagner des votes avec ça.
Il y a du monde qui nous écoute, là, puis la majorité, en fait, du monde qui nous écoute, puis ça, c'est les chiffres qui le démontrent, la majorité vit très serré, a de la difficulté à mettre des sous de côté pour sa retraite, a de la difficulté à payer le solde sur sa carte de crédit. Et là, on y dit à cette majorité... Ben, êtes-vous prête à payer plus pour lutter contre les gaz à effet de serre? Je veux dire, le monde, ils ont le goût de dire, oui, je veux en faire plus, ben, mais Christy, j'ai plus de maudite scène dans mes poches.
Le problème, c'est comment la question est formulée. En terminant, vite, les personnes spécialisées pour calculer ces coûts-là, c'est les assureurs. Puis les assureurs nous montrent qu'à chaque année où on attend, ça nous coûte de plus en plus cher. Puis je te parle de milliards de dollars de coûts. Puis qui écope quand il y a des catastrophes climatiques? C'est les pauvres. Fait que si on s'inquiète d'eux, pensons au changement climatique.
Paul Journet, Carl Bélanger, à demain.
À demain.
À demain. Restez à l'écoute.